Bonjour à tous. Je lis dans le psaume 96 que nous avons lu déjà. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel, la splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. L'Éternel, dites-le parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons nous rappeler que c'est toi qui règnes. Nous voulons nous rappeler que c'est Christ qui règne dans nos vies et dans nos cœurs. Mais nous voulons aussi le déclarer au monde. Nous voulons dire à ceux qui nous entourent que c'est toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, et c'est toi qui règnes sur toute chose que tu as créée. Alors Seigneur, équipe-nous ce matin pour pouvoir faire cela, et pour les semaines à venir, donne-nous du courage pour présenter Christ, dire qu'il est le Seigneur, mais aussi le sauveur des âmes perdues. Et nous te demandons cela en son nom. Amen. Alors, en cette rentrée, je vous propose une prédication un peu spéciale. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va répondre aux objections qu'on vous fera peut-être sur votre foi. Voilà. Certains vont reprendre l'école, si ce n'est pas déjà le cas. Certains, après le retour des vacances, vont reprendre le travail. Et si vos collègues, vos amis, vos proches savent que vous êtes chrétien, forcément, ils vous poseront des questions. Et peut-être même qu'ils feront des objections quant à votre foi chrétienne. Et donc, le but de cette prédication est de vous équiper, nous équiper, pour défendre l'Évangile, pour défendre la foi chrétienne, mais surtout pour le partager avec nos amis non-croyants. Et donc, je vous invite à nous mettre à l'écoute de cela. Ma fille Clémence, qui a 4 ans et demi, ne peut pas dormir sans son doudou. S'il disparaît au moment du coucher, c'est la panique totale. Et lorsque ça arrive, avec Olivia, mon épouse, alors on se transforme en véritable détective et on retourne toute la maison pour retrouver ce doudou. Et à chaque fois que cela arrive, moi, en tant qu'adulte, intelligent, fort et raisonnable, je me dis, mais c'est totalement absurde. Ce doudou n'a aucun pouvoir, il n'a aucune utilité. C'est juste ma fille Clémence qui lui donne un rôle rassurant et protecteur dans sa tête. C'est juste une invention, une projection psychologique de sa part. Et voyez-vous, certains de nos proches, de nos amis, de nos collègues, de nos camarades non-croyants, peut-être même certains d'entre vous, ce matin, ici, voient les chrétiens de cette manière, comme des petits-enfants. Pour nos amis non-croyants, croire en Dieu, c'est comme s'accrocher à un doudou géant. Un truc inventé pour se rassurer face aux difficultés de la vie. Selon eux, Dieu serait une béquille pour nous chrétiens. Et derrière leur affirmation, il y a l'idée qu'eux n'ont pas besoin de béquilles, parce qu'eux, ce sont des grands, ce sont des forts, des intelligents, des hommes et des femmes raisonnables, qui n'ont pas besoin d'un doudou pour progresser et avancer dans la vie. Et donc, la question est posée, est-ce que Dieu n'est rien qu'une simple béquille pour nous chrétiens ? Eh bien, la réponse que nous allons apporter et que nous voulons leur apporter est oui et non. Oui, Dieu est une béquille pour nous, chrétiens, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir une béquille. En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir honte de dire que nous avons absolument besoin d'une béquille. Nous avons absolument besoin de Dieu. Il est essentiel pour nous. Et lorsque je parle de béquille, je veux dire un soutien extérieur à nous-mêmes, qui nous aide, qui nous rassure, qui nous console et nous apaise face aux difficultés de la vie. Dieu, pour nous, est cet agent, cette personne extérieure à nous-mêmes, sur qui nous nous reposons, sur qui nous nous appuyons constamment, au quotidien. Sans Dieu, nous serions les plus malheureux. Et donc oui, en tant que chrétiens, nous avons pleinement conscience de notre besoin de Dieu. Et on ne devrait pas avoir honte de le déclarer. Oui, nous avons besoin de Dieu. Cela étant dit, nous devons poser la question suivante. En quoi cela nous différencie-t-il vraiment des autres, et notamment des athées ? Car si on y réfléchit bien, ce que nous remarquons autour de nous, c'est que chaque être humain sur cette terre, athée y compris, possède sa propre béquille. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, cherche un appui, un soutien pour affronter l'hostilité de cette vie ou lui donner un sens. Par exemple, quand, après une longue journée, nos amis non-croyants disent « Allons boire un verre. » Faisons-nous une bonne soirée Netflix, ou allons faire du sport pour évacuer tout ce stress, ou ce week-end je vais faire un peu de shopping, ça me fera du bien, ou j'ai un compte en banque bien rempli, je suis rassuré, ça m'apaise. Lorsque nos amis non-croyants font ceci, ils sont en train de s'appuyer sur des éléments extérieurs pour se détendre, pour trouver du réconfort, pour se donner une bouffée d'air, un peu de repos dans ce monde hostile. La seule différence avec nous, c'est que leur béquille ne s'appelle pas Dieu, mais argent, loisirs, voyages, divertissement. Mais tout comme nous, ils ont foi en quelque chose. Ils ont besoin de cet agent extérieur, de cet appui, de ce socle qui leur permet de tenir, de comprendre la vie et d'y faire face. Sans ces appuis, sans leur foi, eh bien, leur vie serait complètement insupportable. Qu'ils le reconnaissent ou non, nos amis non-croyants ont aussi leur propre béquille. Ils ont foi en quelque chose. Et en fait, ils sont juste comme nous. Ils sont faibles. Ils ne sont pas aussi forts et ils ne sont pas aussi indépendants qu'ils le pensent ou qu'ils le croient. Ils ont besoin de foi. Ils ont besoin d'un appui extérieur pour tenir bon dans cette vie. Et c'est à ce moment-là que les athées, et peut-être qu'il y a des athées ici ou des non-croyants, et c'est peut-être à ce moment-là que vous vous dites « Ok, on n'est peut-être pas aussi fort et aussi indépendant, mais nous, on est des gens raisonnables, on est intelligents, on n'a pas besoin d'un doudou ou d'une invention, d'une projection psychologique, d'une chimère pour nous rassurer. Non, les choses sur lesquelles on s'appuie, c'est concret. » C'est réel, c'est palpable. Et en tant que chrétiens, à cela, nous devons répondre premièrement que Dieu, notre Dieu, n'est pas ce genre de béquille. Ce n'est pas une sorte de chimère, une projection psychologique, mais bien une réalité vivante, pleinement capable, puissante de nous offrir des solutions à nos problèmes. Et deuxièmement, en tant que chrétiens, nous devons leur répondre que non, on ne croit pas par faiblesse cognitive ou intellectuelle. On ne cherche pas juste à fuir la réalité, bien au contraire. On est pleinement ancré dans cette vie réelle. Et c'est pourquoi on a besoin de Dieu. Mais avant de voir ces deux choses, on doit d'abord montrer et expliquer à nos amis non-croyants qu'ils ne sont pas aussi raisonnables et intelligents qu'ils le pensent. Car en effet, être raisonnable, c'est quoi ? Être raisonnable, c'est faire le choix de ce qui marche, de ce qui fonctionne, de ce qui apporte une solution efficace et durable aux problèmes et aux souffrances que nous rencontrons, n'est-ce pas ? Mais si nous prenons toutes les béquilles que ce monde nous propose pour faire face à l'hostilité, à la dureté de la vie, et que nous les éprouvons, que nous les testons pour régler nos problèmes humains, eh bien nous nous rendrons vite compte que ça ne marche pas, et que ça ne marche jamais réellement. Et par conséquent, de fait, les athées font en réalité quelque chose d'absolument déraisonnable en s'appuyant sur leur béquille, parce que leur soif de paix et de repos n'est jamais comblée. Par exemple, que font les gens en rentrant de vacances exceptionnelles, sensationnelles ? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils ont déjà envie de repartir. Après, une promotion au travail, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Ils en veulent une autre. À la fin d'un épisode de leur série préférée, qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bien, ils enchaînent sur l'autre. Après une journée de shopping, qu'est-ce qu'ils font ? Ils y retournent le lendemain pour acheter exactement la même chose dans un autre coloris. Toujours plus de séries, toujours plus de vacances, toujours plus de shopping, de plaisir, toujours plus de tout pour un répit éphémère qui ne dure jamais. Et que se passe-t-il lorsqu'ils ne peuvent pas augmenter la dose ? Faute de moyens, faute de santé, faute d'énergie, eh bien, pouf, tout s'effondre. Dépression, burn-out, désespoir. Ces béquilles qui sont censées les soutenir échouent lamentablement. Et pourtant, ils s'y accrochent, espérant toujours qu'elles suffiront enfin. Mais en réalité, ce n'est pas les béquilles qui les soutiennent. En réalité, ce sont nos amis non-croyants qui leur prêtent, qui leur attribuent un pouvoir, une capacité, des vertus qu'elles ne possèdent pas. Un peu comme ma fille Clémence avec son doudou. Et donc cela nous amène à dire que Dieu, notre Dieu, n'est pas comme ça. Oui, il est une béquille, il est un soutien pour nous, on en a besoin, mais non, ce n'est pas une béquille de ce genre. Dieu n'est pas une béquille comme les autres. Il n'est pas une invention humaine, il n'est pas une projection psychologique destinée à nous rassurer, contrairement à toutes les autres béquilles. Dieu est bien réel, vivant, et il est tout puissant. Et pour vous démontrer cela, premièrement, donc Dieu existe réellement. Vous savez qu'au premier siècle, des hommes et des femmes ont vu Jésus de leurs propres yeux. Et même certains ont marché avec lui, d'autres ont même mené des recherches sérieuses pour comprendre qui il était. Et leur témoignage est consigné dans la Bible. Et la Bible nous donne un accès direct à son identité et à ce qu'il a accompli. Et une des personnes qui a été témoin de Jésus nous dit en Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il dit « Il, donc Jésus, est le reflet de sa gloire et l'expression parfaite de son être. » Autrement dit, Dieu n'est pas une idée abstraite qu'on se raconte, un concept qu'on invente pour se rassurer. L'auteur nous dit que non, Jésus est bien réel et qu'il reflète parfaitement la gloire de Dieu. Et il nous montre que cette foi repose sur du concret, sur du solide, sur quelque chose de réel. Elle repose sur Jésus. Mettre sa confiance en Jésus pour affronter la vie, ce n'est ni naïf, ni stupide, ni irrationnel. C'est concret. Donc, Jésus, Dieu, est bien réel. Mais il n'est pas juste réel, il n'existe pas juste comme ça. Il est aussi tout-puissant. Il a un véritable pouvoir. Et l'une des plus belles preuves de ce pouvoir de Dieu, eh bien, c'est nous-mêmes. Ce sont les chrétiens. C'est l'Église. La meilleure preuve de la puissance de Dieu, c'est l'Église. Je lis en Colossiens chapitre 1, les versets 4 à 6. Colossiens chapitre 1, versets 4 à 6. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous en avez entendu où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. La puissance de Dieu, par sa parole, par l'Évangile, nous dit l'auteur, nous dit Paul, porte des fruits et progresse dans le monde entier. Dieu transforme des misérables pécheurs, des méchants, des égoïstes, pour les rendre doux, humble et aimant. Votre conversion, notre conversion, le témoignage de cette conversion sont des preuves de la puissance de Dieu. Alors non, faire confiance à Jésus n'est pas une absurdité. C'est au contraire la chose la plus sensée qui soit. Même si cela doit nous conduire à la souffrance, au rejet et à la persécution. Saviez-vous que la communauté la plus persécutée au monde est la communauté chrétienne? Les chrétiens sont... aujourd'hui, il y a plus de 380 millions de chrétiens victimes de discrimination et de persécution à cause de leur foi. Et cela va de la moquerie à l'exclusion jusqu'à la prison et même parfois la mort. Mais même face à ces... persécution, il vaut la peine de tenir bon dans la foi. Et voici pourquoi. Parce que Jésus, notre Jésus, notre Sauveur et Seigneur, est le seul capable de nous apporter, d'apporter à l'humanité ce que tout homme recherche. Et il faut se poser quelques questions, regarder un peu autour de nous et analyser un peu le comportement de nos collègues, de nos amis et de nos proches. Pourquoi autour de nous cette frénésie de remplir sa vie de toutes sortes de choses? Pourquoi cette course effrénée après un repos et un bien-être qui nous échappe constamment? Eh bien, parce que, en fait, derrière cette agitation se cache un problème plus profond. Toutes ces quêtes, ces plaisirs, ces séries, ces achats compulsifs, toutes ces choses ne sont que des symptômes d'un problème plus grave. Si les hommes et les femmes du monde entier autour de nous cherchent autant le repos, la paix, le bien-être, c'est bien parce qu'ils savent, au fond d'eux, qu'ils n'ont pas réellement le repos et la paix. Ils savent que quelque chose cloche. Ils savent qu'ils ne sont pas en paix avec le Créateur de l'univers, avec le Créateur de toutes choses, avec leur Créateur. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Au fond d'eux, ils savent qu'ils sont en guerre contre Dieu et que Dieu est en guerre contre eux. Ils savent qu'ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu, qu'un jugement arrive. que la condamnation arrive, que la mort éternelle loin de Dieu arrive. Et donc, ils cherchent à étouffer cette réalité, cette vérité, à travers toutes sortes de quêtes, en remplissant leur vie de toutes sortes de choses. Et en cherchant en vain à atteindre un semblant de paix et de repos. Mais cela ne marche pas. Ces béquilles sur lesquelles nos amis non-croyants s'appuient ne fonctionnent pas. Mais il y a un appui qui marche pour offrir le vrai repos, la vraie paix. Et cet appui, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus. Jésus offre le repos. Et voici ce qu'il dit en Matthieu 11, 28. Je terminerai par ça. Matthieu 11, 28, voici ce que nous dit Jésus à nous, mais à tous les autres, à tout homme et à toute femme sur cette terre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation douce, remplie de compassion et d'amour à tous ceux qui sont profondément fatigués, qui courent derrière le repos, qui courent derrière la paix, sans jamais trouver le repos et la paix. Nous étions de cela. Jusqu'au jour où nous avons entendu, reçu et cru en l'invitation de Christ. Ce jour-là, on a trouvé enfin le repos. Et gloire à Dieu pour ce repos qu'il nous a donné. Mais beaucoup de ceux que nous allons croiser en cette rentrée sont dans cette situation de fatigue morale et spirituelle. Ils sont en quête désespérée de repos. Des proches de la famille, un conjoint, un frère, une sœur, des amis, des collègues, des voisins, ils sont en quête de repos. Et donc, face à leurs objections auxquelles vous allez faire face, eh bien, vous êtes un peu équipé maintenant pour défendre la foi chrétienne, pour défendre votre foi, pour l'expliquer, pour la démontrer face aux objections. Et face à leur fatigue, face à leur désespoir, aimez et offrez l'Évangile. Offrez cette invitation de Jésus, en qui ils pourront trouver le véritable repos.